Merci Jean-Pierre. Vous avez dit à Jean-Pierre, il m'avait posé la question, qu'est-ce que tu vas prêcher ce dimanche? J'ai dit sur 1 Timothée. Et ce vendredi, j'étais spectateur d'un spectacle qui s'appelle Esdras. Et c'était très, très, très bien. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais prêché un message pour que vous soyez déjà prêts pour un peu mieux comprendre l'histoire d'Esdras. Et puis, après avoir visionné le spectacle, voilà, je me suis dit, ce serait quand même bien de prêcher sur Néhémie ce dimanche. Comme ça, il y a quand même une relation entre Néhémie Esdras et Néhémie, qui sera plus au clair. En tout cas, voilà, c'est pour ça que j'ai choisi la prédication sur Néhémie. Est-ce que vous connaissez Néhémie? Pas trop, ouais. Pour ceux qui ont vu le spectacle, vous avez vu, hein, on voit apparaître Néhémie pour la construction de la muraille. Alors, comme il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas vu le spectacle, pas beaucoup. On était quand même 180, 200 au moins, je pense. Mais il y avait peut-être trentaine de chez nous qui étaient là, présents. Donc tout le monde n'a pas vu, du coup, et que vous n'avez pas, certainement pas peut-être, certains n'ont pas entendu ma précédente prédication, je vais quand même vous parler un peu de contexte pour que vous puissiez comprendre l'histoire. Alors, ça se passe à l'époque de l'Ancien Testament, avant l'arrivée de Jésus. Et l'Israël pratiquait souvent de l'idolâtrie. Et c'est pour ça que les prophètes ont averti au peuple d'Israël qu'ils allaient périr. Alors, tu peux passer? Ils ont prophétisé ainsi, d'ailleurs d'abord, Ésaïe a prophétisé ainsi, « Voici des jours viennent où tout ce qui est dans ta maison sera emporté à Babylone. » Alors, c'est quoi cette prophétie? En fait, Ésaïe prononce cet oracle au roi d'Ézéchias. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Ézéchias, quand il reçoit une ambassade des personnes de la part de Babylone, il leur montre le trésor du temple en disant que, pour fanfaronner un petit peu, « Voilà, je suis riche, nous sommes riches, regardez tous ces trésors !» Et là, devant cet orgueil, Ésaïe prophétise 115 ans avant la déportation. 115 ans avant la déportation que la maison d'Israël va souffrir. Il va être déporté et tout ce qui est là sera emporté à Babylone. Deuxième prophétie, c'est la prophétie de Jérémie qui dit « Toute cette contrée deviendra une ruine et ces nations seront asservi au roi de Babylone pendant 70 ans. » C'est intéressant parce que Jérémie, le prophète de malheur, hein, puisque voilà, il est connu comme ça, parce qu'il prophétisait toujours des malheurs, comme quoi voilà, ils allaient être déportés, il dit, on va être déportés, mais 70 ans plus tard, il y aura un retour. Il y aura un retour. Cette prophétie a été prononcée peu avant la première déportation qui aura lieu en l'an 605 avant Jésus-Christ. Tu peux passer le slide suivant. On voit donc un petit peu la datation pour connaître un petit peu l'historique de cette histoire. En 586, donc, il y a eu plusieurs déportations. Et en 586, il y a la destruction totale, après la destruction du royaume du Nord, la destruction totale du royaume du Sud, royaume de Juda, par Babylone, qui détruit Jérusalem avec Nabucodonosor, hein, donc qui brûle le temple, qui déporte aussi le peuple à Babylone. Et puis, après 70 ans d'exil, depuis la première déportation, les Juifs retournent à Jérusalem pour construire le temple. Voilà, ce qui est formidable, c'est que Dieu envoie les Perses, enfin le roi Cyrus, pour renverser Babylone. Et donc le pouvoir a changé et le roi Cyrus, le nouveau roi, publie un décret autorisant les Juifs à retourner à Jérusalem pour rebâtir le temple. On voit vraiment la volonté de Dieu. Après 70 ans, Dieu, en utilisant les Perses, fait revenir son peuple à Jérusalem. Tout ça sous la conduite de Zorobabel, un des chefs, pour rebâtir les fondations du temple et puis pour la construction du temple. Les travaux durent à peu près 20 ans. Et puis, en 515 avant Jésus-Christ, le temple est construit. Et puis, vient Esdras vers 458 avant Jésus-Christ pour le renouveau spirituel. Nous avons vu la dernière fois que Esdras était un scribe, un prêtre, qui enseignait la parole de Dieu, qui connaissait très bien la parole de Dieu, mais en même temps, il pratiquait cette parole. Et puis, il aimait enseigner, transmettre cette parole aux autres. Pendant 13 ans, il a efforcé de changer pour un renouveau spirituel, mais il y avait toujours des menaces parce que l'Israël, même si le temple était construit, même si Esdras prêchait la parole de Dieu, il y avait pas mal de dangers aux alentours. Les gens attaquaient le village et puis ils étaient martyrisés. 13 ans après Esdras, c'est-à-dire 70 ans après la construction du temple, arrive donc Néhémie. Voilà donc l'histoire de Néhémie qui commence. Alors, qui est Néhémie? Dans le livre de Néhémie, chapitre 1, verset 11, il est écrit « J'étais échanson du roi ». J'étais échanson du roi. Tu peux passer le slide suivant. C'est-à-dire que il était officier de confiance chargé de présenter et goûter le vin du roi. Un poste très important. Ce n'est pas juste un simple service. Les chansons avaient accès direct au roi, un privilège extrêmement rare. Et puis, il devait être digne de confiance absolue, puisqu'il goûtait le vin du roi, s'il était empoisonné ou pas. Donc, il occupe un poste très important. Et puis, on voit apparaître dans le chapitre 1 la visite de son frère qui s'appelle Anani, et il lui raconte la situation du pays. Les murailles de Jérusalem sont en ruine, les portes sont brûlées. Voilà, Néhémie apprend. Guitare. Les murailles de Jérusalem, qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, donc Néhémie apprend la situation de Jérusalem. Oui, il est attristé. Il est vraiment, il sent un grand fardeau pour son peuple. Et il pleure, il jeûne. Vous savez, le jeûne, ça exprime un petit peu sa dépendance totale à Dieu. Seigneur, je ne sais pas quoi. Enfin, il est dans la détresse. Et sa première réaction, alors qu'il occupe un poste très important, donc il aurait pu directement aller voir son roi. Non, au lieu d'aller voir son roi pour demander de l'aide, il va d'abord devant le Seigneur pour pleurer, pour jeûner, pour prier, pour confesser que son peuple a péché, qu'il a péché, reconnaissant que voilà, ils étaient dans l'idolâtrie et que maintenant tout ce qu'ils subissent actuellement, c'est la conséquence de leur péché. Et dans sa prière, il demande la faveur de Dieu. Et puis, il va vers le roi. Après ceci, après la prière, après avoir eu une rencontre directe avec le Seigneur, il va aller voir son roi pour le service. Et là, il avait une mauvaise mine. Donc, le roi dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as une mauvaise mine? Et là, excusez-moi. Et puis, il raconte l'histoire. Après avoir raconté l'histoire, le roi, Artaxerxès, lui dit, que demandes-tu? Tu peux passer le verset. Le roi me dit, que demandes-tu? Je priais le Dieu des cieux et je répondis au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Ce qui est intéressant, c'est qu'il fait une demande. Mais quand le roi lui demande, qu'est-ce que tu veux? Là, il dit, il ne répond pas tout de suite, mais il a le réflexe de prier à Dieu. Il priait. Je priais le Dieu des cieux. Est-ce que vous avez ce genre d'habitude? Quand vous avez des choses importantes, Est-ce que vous pensez quand même à Dieu à ce moment-là, précis, quand c'est vraiment important? Néhémie, quand le roi lui demande « Que demandes-tu ?», il pense à prier à Dieu avant de lui exposer son vœu de retourner en Israël. Et puis, devant cette demande, vous savez, même si on avait fait des demandes, même si on est proche, on peut faire des demandes, et c'est pas sûr que l'autre accepte, n'est-ce pas? Heureusement, Dieu était avec lui. Dieu ouvre le cœur du roi. Et c'est parce que Dieu a agi en ouvrant le cœur du roi Artaxerxès qu'il lui permet ceci, tu peux passer, il lui permet, il lui donne une permission officielle de voyager en toute sécurité. Donc une lettre pour garantir la protection dans les territoires contrôlés par les ennemis et puis les bandits. Et puis deuxième chose, il lui accorde aussi les matériaux pour la reconstruction, parce que c'était important, les bois pour les portes de Jérusalem, nécessaires à la sécurisation de la ville, etc. Et puis troisièmement, il est nommé gouverneur. Il est nommé gouverneur. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas de gouverneur à Jérusalem, et donc Néhémie est nommé gouverneur, c'est-à-dire avec le pouvoir de prendre des décisions pour organiser et superviser la reconstruction. Super. Dieu écoute notre prière. Dieu ouvre même le cœur des incroyants. Et là, il peut commencer son œuvre pour rebâtir le temple de Dieu. Le problème, c'est que quand nous voulons agir pour le Seigneur, il y a toujours des oppositions, n'est-ce pas? Je dis souvent, parce que avant, j'allais souvent faire des voyages missionnaires avec des jeunes. Et à chaque fois, je leur disais, là, maintenant, on va aller en Hongrie, en Ukraine, en Slovaquie. Enfin, je faisais plein de pays avec mes jeunes d'avant. J'étais responsable de jeunes. Pour faire des voyages missionnaires, et à chaque fois, je leur disais, tu sais, vous savez, le Seigneur, dans ce genre de voyage, quand on veut œuvrer pour le Seigneur, le diable ne nous laisse pas tranquille. Et c'est ce qui s'est passé aussi pour Néhémie. Quand il voulait œuvrer pour cela, tout d'abord, il y a eu des moqueries. Des principaux adversaires de l'œuvre de Dieu étaient Sambala. Sambala, donc, qui était un gouverneur des Samaritains du Nord. C'est-à-dire qu'il y a Jérusalem, et puis il y a des Samaritains. Et Sambala était le chef des Samaritains. Et puis il y a Tobia, un chef ammonite, qui s'est marié aussi avec une juive. Du coup, il est allié avec des juifs riches, mais il s'occupait du territoire de l'Est de Jérusalem. Et puis Geshem, un arabe sud, qui était aussi le chef de sa tribu. Et donc, les trois se réunissaient contre la renaissance d'un Jérusalem indépendant. Ils ne voulaient pas que Jérusalem devienne indépendant. Et ils se moquaient surtout en disant que bâtissent ces faibles juifs. À l'époque, les juifs étaient faibles. Donc, c'était la vérité, n'est-ce pas? Quand on vous dit votre faiblesse comme ça, avec des paroles, comment vous réagissez? Vous avez mal. Vous avez super mal. Vous savez, la parole a une grande puissance. Ça peut détruire les gens. Rien qu'avec des paroles. Et c'est ce qu'il voulait essayer de faire vis-à-vis de Néhémie et son peuple. Mais ce qui est incroyable, c'est que Néhémie ne répond pas à toutes ces critiques, à toutes ces moqueries. Il va vers le Seigneur. On voit dans chapitre 4:4, il dit « Écoute, ô Dieu, car nous sommes méprisés. » Au lieu de réagir en disant « Hé, je suis le gouverneur de ce terrain. J'ai été nommé par mon roi. Et vous êtes sous son autorité. Donc, taisez-vous. Vos bouches. » Il aurait pu dire ça. Mais il n'a rien dit de tel. Il a juste prié. Écoute, ô Dieu, écoute, Seigneur, car nous sommes méprisés. Ça veut dire, agis en notre faveur. Quel exemple qu'il nous apporte. Puis deuxième chose, après les moqueries, il y a eu des menaces. quand les ennemis donc voient que le mur avance, ils préparent une attaque. Et là, Néhémie entend ce bruit d'attaque de la part de toutes ces tribus. Alors, Néhémie place des gardiens jour et nuit. Et chaque ouvrier aussi travaille, parce qu'ils auraient pu être attaqués dans la journée, chaque ouvrier travaille une main à la truelle et l'autre à l'épée. Donc vous voyez, hein, une truelle pour rebâtir, et puis une autre arme, l'autre main pour l'épée, pour se défendre, parce qu'ils auraient pu être attaqués à tout moment. Et c'est comme ça qu'ils ont construit le mur. C'est comme ça qu'ils ont combattu contre leur ennemi. Voilà donc une image assez intéressante pour nous, nous chrétiens, parce que nous bâtissons aussi des choses avec le Seigneur. Et parfois, nous sommes attaqués dans notre construction et par les attaques du diable. Nous avons besoin de la prière. Nous avons besoin de combattre avec la prière, la parole de Dieu, etc. Et puis, les menaces n'ont pas fonctionné. Le mur avance encore. Et les ennemis cherchent aussi maintenant à infiltrer, corrompre l'œuvre. Tobia, qui était un chef ammonite, donc au côté est. Ammonite, ça vous dit quelque chose? Ammonite? Tribu Ammon? Amnon? Amnon? Non, je te prononce mal. Enfin bref, c'est la descendance de Lot. Hein, donc le cousin d'Abraham. Hein, oui? Non, le neveu, pardon. Le neveu d'Abraham. Merci. Le neveu d'Abraham. Et donc, ça veut dire qu'ils sont quand même cousins entre les Israélites et les Ammonites. Mais, voilà, ils attendaient toujours, ils guettaient toujours pour attaquer Israël. Et donc, Tobia était un Ammonite. Et puis, ils échangeaient beaucoup de lettres avec les Judas. Tout le monde le croyait bon. Quand dans le Néhémie, les Juifs le considéraient comme un bonhomme, une bonne personne. Mais en fait, dans son cœur intérieur, il était assez rusé. Et il voulait justement la destruction d'Israël. Mais Néhémie avait le discernement pour voir ce qu'il manigançait. Il s'est même installé un bureau dans le temple de Dieu. Néhémie, donc, là, Dieu l'a chassé. Enfin, bref, il avait un discernement pour la ruse. Ça ne fonctionnait pas non plus pour la construction du mur. Et puis, finalement, ils se sont dit, on n'a qu'à débarrasser Néhémie, n'est-ce pas? On n'a qu'à tuer le problème, débarrasser complètement. Et donc, ils vont tenter de le débarrasser en disant, viens, rencontrons-nous. Hein, n'est-ce pas? C'est important de faire des réunions avant de faire quoi que ce soit, n'est-ce pas? Nous, les Vendopériens, on doit faire des réunions avant de faire un grand projet. Et là, vous êtes en train de faire un grand projet de construction. Donc, nous, en tant que des réunionnites, il faut faire des réunions, n'est-ce pas? Réunissons-nous, réunissons-nous. C'est censé de dire ça. Donc, Sambala et Geshem m'envoyèrent dire, viens et ayons ensemble une entrevue dans un village, dans un des villages de la vallée d'Onon. Ils avaient médité de me faire du mal. Ils avaient tout de suite compris que Néhémie était en danger. Ils veulent attirer Néhémie hors de Jérusalem, l'éloigner de la protection du temple, du peuple, pour le tuer ou peut-être pour le capturer. Mais Néhémie discerne leur piège. J'envoyais vers eux des messagers pour leur dire, j'ai un grand ouvrage à exécuter, je ne puis descendre. Pourquoi l'ouvrage s'arrêterait-il pendant que je le quitterais, n'est-ce pas? Une bonne réponse, sans froisser les personnes. Il faut avoir la sagesse quand même. Il faut demander la sagesse de Dieu, parfois quand vous êtes un petit peu buté comme ça. Et ils insistent 4 fois. Mais Néhémie ne cède pas. Vous savez, le diable n'attaque pas toujours de face. Il cherche à nous distraire de la mission par des différentes ruses. Donc il faut avoir ce discernement pour voir le plan du diable. Donc la tentative d'assassinat n'a pas fonctionné non plus. Et puis, ils se sont dit, tout ne marche pas, la muraille s'avance, est en train de finir leur construction. Qu'est-ce qu'on va faire? Et puis, ils se sont dit, ah ben, ce sont des croyants. Alors, on va utiliser leur croyance. Et ainsi, ils envoient quelqu'un. Je vins, donc Néhémie 6, 10, je vins à la maison de Shemaïa, fils de Delaïa. On a un Delaïa hein, chez nous. Delaïa qui veut dire l'Éternel a délivré. Mais Shemaïa, donc, était le fils de cet homme. Et cet homme, Shemaïa, dit à Néhémie, « Retirons-nous ensemble de la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes, car ils vont venir pour te tuer cette nuit. » Ça veut dire quoi? Shemaïa est en train de dire à Néhémie, « J'ai reçu une prophétie. » Cette prophétie dit que tu vas être tué ce soir. Donc il faut que tu te réfugies. Où ça? Le meilleur endroit pour se réfugier, c'est dans le temple. Donc va dans le temple. Il n'y a rien de mauvais dans cette proposition, sauf que c'est aussi un piège spirituel, parce que, Néhémie est un gouverneur, il n'est pas un prêtre. Il ne peut pas entrer dans le temple. S'il entre dans le temple, il commet une désobéissance à la loi de Dieu. Vous voyez, ils ont bien réfléchi. Les diables, nos ennemis, sont très rusés, très intelligents. Ils veulent nous faire faillir. Et donc, ils utilisent parfois des méthodes que nous pourrions succomber. Voilà. Si Néhémie y était entré, ben, il aurait péché et il aurait surtout perdu sa crédibilité en disant, on ne peut pas suivre Néhémie, il vient de pécher, comment on pourrait le suivre? On va arrêter la construction, ça aurait pu arriver. Mais Néhémie dit, je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'avait envoyé. Il aperçoit tout de suite que ce n'est pas un vrai prophète qui vient de lui parler, mais qu'il avait été soudoyé pour me faire peur et pour me faire péché, donc en faisant entrer dans le temple. Donc voilà, Néhémie refuse le piège et reste ferme. Il ne fuit pas. Il n'entre pas dans le temple. Et puis, il reste, il fait confiance à notre Seigneur. Du coup, le complot échoue. Peu après, le mur est achevé en 52 jours. Incroyable. Pendant des années, des décennies, il n'y avait rien. Et puis en 52 jours, un homme qui a pleuré, qui a eu un fardeau, et il fait construire le mur de Jérusalem. Parce que le mur de Jérusalem était très important. Même s'ils avaient construit déjà à l'avance le temple, on a beaucoup parlé du temple ce matin, même si on avait déjà construit le temple était souvent attaqué. Et il y avait un affaiblissement du peuple. Mais avec la protection du mur, il pouvait pleinement pratiquer. Alors, la leçon spirituelle qu'on peut avoir, c'est que l'ennemi ne dort pas quand tu bâtis pour Dieu. Il attaque par la peur, les rumeurs ou aussi la manipulation. C'est pour ça que nous avons besoin d'un discernement spirituel. Néhémie savait reconnaître ce qui venait de Dieu et ce qui venait de l'ennemi. Que nous puissions vraiment avoir ce bon discernement pour connaître, pour relever ce que Dieu veut faire de nous. À partir de chapitre 7, voilà, le mur est construit, le temple est construit, et ce n'est pas tout en fait, ce n'est pas le bâtiment qui est tout. Il veut un renouveau spirituel. Mais avant le renouveau, d'abord, on voit au verset 2, « Je donnerai le commandement à Hanani, mon frère, et à Hanania, car c'était un homme fidèle et craignant Dieu plus que beaucoup d'autres. » Néhémie, tu peux passer le slide suivant. Néhémie ne se contente pas d'avoir construit. Maintenant, il faut aussi avancer pour travailler ensemble avec les autres. Et il ne choisit pas les plus puissants pour travailler ensemble, ni les plus populaires, mais les plus fidèles et les plus craignants de Dieu. Voilà un peu les qualités pour être un bon leader. Être fidèle, craignant Dieu. Et puis là, il est dit, craignant Dieu plus que beaucoup d'autres. Ça veut dire que ces gens-là avaient la confiance de plusieurs personnes. Être digne de porter des responsabilités. On voit, il a proposé deux noms, Anani, donc celui qui lui a informé la situation de Jérusalem. Et puis Anania, donc ça lui ressemble beaucoup, hein, ça ressemble beaucoup les deux noms. Anania, chef de la forteresse, qui est décrit comme fidèle et craignant Dieu, plus que beaucoup d'autres. Un homme rare. Quand vous choisissez des personnes, voilà, c'est important de collaborer ensemble. Il ne veut pas travailler tout seul. Il veut collaborer avec les autres. Ça fait penser un peu à Moïse. Vous savez, à un moment donné, Moïse travaillait tout seul. Hein, il jugeait tout le peuple, lui tout seul. Et puis Jéthro lui dit, mais ce que tu fais est mauvais. Hein, il faudrait choisir des hommes pour t'épauler, pour travailler ensemble. Et il disait, dans Exode 18-17, il dit, choisis des hommes capables. Donc, il faut avoir des capacités. Craignons Dieu. Un peu comme vient de choisir Néhémie, ami de la vérité, ennemi de la cupidité. Et c'est exactement ce que fait Néhémie pour choisir des personnes avec qui il veut bien travailler. Il veut laisser même le commandement aux autres, parce qu'il faut déléguer. Il ne peut pas être toujours tout seul. Et au verset 3, il est dit, donc, on établit des gardes, chacun à son poste, chacun devant sa maison. Après la construction faite, il faut aussi garder cette construction. Et il dit que ce n'est pas seulement le travail des chefs ou la police, mais chacun devant sa maison. Chacun doit protéger ce qui lui a été confié. Spirituellement, je donne un exemple. Chaque maison a sa responsabilité pour déneiger, ça vous savez. Hein? Ça veut dire que quand ça neige fort, c'est qui travaille? C'est moi. Pour l'église. Pour faire des chemins, etc. Les gens. Voilà. Ça, c'est une bonne méthode pour que les gens puissent marcher librement, etc. Hein? Parce que l'État travaille pour les voies, pour les voitures, mais pour les chemins, les chaussées, il faut que chacun travaille. Un peu, c'est dans la même logique. C'est-à-dire que chacun doit être responsable pour se défendre. De son côté-là, voilà, il faut être sur leur qui-vive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que chacun de nous est responsable de son foyer, sa vie, sa foi. Pour dire que, enfin, cela veut dire aussi que tu ne peux pas compter sur les autres pour prier. Tu ne peux pas compter sur les autres pour veiller ou garder ton cœur devant le Seigneur. C'est toi, c'est moi. Nous devons tous veiller, prier, faire des efforts. Voilà, pour travailler. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation d'après Matthieu 26. Et puis, pour continuer aussi à bâtir, la muraille n'est pas la fin. La ville était spacieuse et grande, mais il y avait peu d'hommes au verset 4 et les maisons n'étaient pas encore bâties. Donc, après la construction, il faut aussi remplir avec, comme une ville vivante, un peuple restauré, etc. etc. Et puis, après toutes ces choses, même pendant, dans le chapitre 8, Néhémie appelle Esdras, le scribe, le prêtre, celui qui avait déjà enseigné à son peuple de la loi de Dieu. Et là, il leur prêche l'évangile. Il leur prêche vraiment comment il faut se comporter et tout le peuple se repente. Tout le peuple connaît un renouveau. Oui. Conclusion, en 52 jours, le mur est achevé, mais Néhémie le sait très bien. La construction de la muraille n'est pas l'objectif final. La vraie victoire est quand la ville est habitée par la présence de Dieu et la vie d'un peuple saint. C'est pourquoi, donc, après le mur, Esdras est appelé pour lire la loi au peuple. Juste lire. On n'a pas besoin de rajouter des choses. Lire la parole, et ça avait touché le cœur des gens. Et en entendant la parole, le peuple pleure, confesse leurs péchés, et il se réjouit. Et la joie de l'Éternel devient encore leur force. Voilà. Quand Néhémie donc apprend, enfin, de la même manière, je dirais que Christ est venu aussi pour rebâtir ce qui est brisé, nos vies, nos cœurs, notre communion avec Dieu. Comme Néhémie a quitté la cour du roi pour secourir son peuple, Christ aussi a quitté la gloire du ciel pour venir sauver l'humanité. Voilà, ouvrons notre cœur, acceptons le Seigneur. Ayons aussi cette disposition de cœur pour avoir un fardeau. Tu peux passer le slide. Encore. Et encore. Ça, c'est la conclusion. Voilà, pour avoir un fardeau, quand vous entendez des choses. On n'est pas tout seul dans la vie. Quand un frère souffre, il faut aussi avoir ce sentiment de miséricordieux que le Seigneur nous donne pour prier, intercéder en sa faveur. Il se sentait responsable pour prier. Et puis, que chacun soit aussi armé de l'épée, de la truelle contre l'ennemi. Dieu veut qu'on construise des choses pour le Seigneur, pour son œuvre. Et puis parfois, et souvent, je ne sais pas, c'est pas parfois, souvent, l'ennemi arrive pour nous défausser, pour nous amener vers un autre chemin. Que nous puissions être dans notre qui-vive, veiller, et avoir aussi le bon discernement pour savoir si ça vient de Dieu ou ça vient de l'ennemi. Et qu'on soit aussi rempli de la présence de Dieu, restauré, etc. Vous savez, chacun de nous sommes le temple de Dieu. Et on doit vraiment être rempli, pas juste un bâtiment, il faut être rempli de la présence de Dieu pour vraiment, voilà, qu'on fasse, pour vraiment terminer sa construction. Voilà, que Dieu nous donne des cœurs de Néhémie pour nous lever et bâtir pour la gloire de son nom. Amen. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur. Pour ce temps, nous avons pu revoir la vie de Néhémie, qui nous rappelle combien il est important de se souvenir de nos frères et sœurs qui souffrent. Il aurait pu être resté les chansons du roi, avoir une vie peinard, dans la richesse, sans trop de soucis. Mais il a voulu vraiment accomplir la mission que tu as donnée dans son cœur. Il a obéi. Seigneur, aide-nous vraiment aussi à être comme Néhémie, des hommes de prière, quand des choses se passent, des hommes qui confessent aussi leurs péchés, quand nous avons péché, des hommes qui sont dépendants de toi, Seigneur. Et lors de la construction des choses que tu nous demandes de faire, parfois il y a aussi des attaques de l'ennemi. Aide-nous vraiment à veiller, à avoir un discernement pour être dans la fermeté, mais aussi pour ne pas faire de compromis avec le monde par la peur. Aide-nous vraiment à avancer, s'il te plaît, Seigneur. Et aide-nous aussi à être remplis cet espace intérieur avec le mur qui est déjà construit, par ta parole, par ta justice, par ton Esprit Saint, Seigneur, pour former ce saint temple que tu veux que nous ayons. Nous te prions tout cela au nom de Jésus. Amen.